17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver dans ce numéro de grands témoins. Grand témoin aujourd'hui, Abdelrahman Mebtoul, qui est de passage à Paris. Et c'est toujours un plaisir, un honneur et une grande satisfaction de vous avoir sur le plateau. Merci et bienvenue.
Je vous remercie de votre aimable invitation, c'est Nassat.
Alors vous êtes, on ne vous présente plus, vous êtes un expert international et vous touchez, vous êtes un peu un touche-à-tout. Vous touchez à l'économie, vous touchez au pétrole, vous touchez à la Méditerranée, vous touchez à la Nouvelle-Algérie. Qu'est-ce que la Nouvelle-Algérie? Et vous êtes constamment en réflexion, en proposition, et c'est assez rare et il faut le souligner. Et c'est pour ça qu'on a toujours un plaisir pour vous accueillir, parce que vous avez un œil vif, intéressant, vous avez une lecture des choses qui est très intéressante. Et quand vous vivez en Algérie, et l'Algérie devient une pièce maîtresse au niveau de l'Afrique, au niveau de la Méditerranée, et même au niveau mondial, malgré qu'elle n'ait pas réussi à rentrer au BRICS. Donc c'est vraiment, votre éclairage nous sera extrêmement précieux. Merci d'être présent. Puis je rappelle aussi que vous avez été le monsieur Méditerranée de l'Algérie, puisque vous avez été chef de file de la délégation algérienne au sommet des deux rives qui a duré 2 ans autour de la Méditerranée occidentale et que, conclu par les engagements de Marseille, en présence du président Emmanuel Macron et avec les 10 ministres des Affaires étrangères de l'Algérie, dont le ministre algérien, et ce qui a donné ensuite un certain nombre de projets. Donc rien de ce qui est méditerranéen vous est étranger, et tout récemment vous avez participé au colloque sur la Méditerranée des solutions, initié par à la fois Humaniv, le think tank sur la biodiversité, la démocratie et la Méditerranée, et l'Académie de géopolitique de Paris, présidée par Monsieur Ali Razbin. Bienvenue et merci pour votre présence. Tout de suite, Abdelrahman Mebtoul, on ne peut pas commencer cette émission sans parler du grand chambardement qu'il y a sur la planète. On a le sentiment que le plus jamais ça qui s'est conclu après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, on remet ça. C'est-à-dire que toutes les structures de régulation comme l'ONU, comme les grandes structures internationales battent de l'aile, et on a le sentiment que les pays font un peu ce qu'ils veulent. Les appétits prédateurs font feu de tout bois. On a Poutine qui va chercher un bout d'Ukraine. On a Erdogan qui va chercher un bout de la Grèce. On a l'Azerbaïdjan qui va chercher le Haut-Karabakh, etc., etc. Chacun essaye de récupérer un petit bout de ce pays, alors que la planète est en feu. La planète subit un réchauffement climatique. La planète est en train de crever. Et on se bat, on fait des petites guéguerres pour récupérer quelques kilomètres carrés. Ça doit vous attrister, cette situation?
Bon, vous savez, on assiste effectivement, comme vous venez de le souligner, à un profond bouleversement géostratégique à l'échelle mondiale. Bon, les derniers événements, ceux de l'Ukraine et récemment au Moyen-Orient. Et on oublie effectivement l'essentiel, qui est l'impact désastreux du réchauffement climatique. D'un côté, on assiste à des averses très très importantes qui détruisent des villes entières. De l'autre côté, à des sécheresses qui ont un impact sur la crise alimentaire. Et effectivement, dans ce monde en plein bouleversement, c'est que le monde ne sera plus jamais comme avant. Hein. On le voit à travers effectivement les BRICS, dont les adhésions des 5 nouveaux membres récemment, effectivement s'oriente vers un monde multipolaire où chacun effectivement essaie de se placer au niveau de ce nouvel échiquier mondial.
Alors le BRICS, ça va, ça vient, parce que là, par exemple, on a un nouveau président en Argentine, et il a dit « je quitte le BRICS ». Donc on voit bien que tout ça, ça bouge.
Oui, effectivement, ça c'est des actions effectivement conjoncturelles. Bon, pour le cas de l'Argentine, il ne peut pas faire ce qu'il veut, il n'a pas la majorité, hein. n'a pas la majorité au niveau des parlements, donc ça dépendra.
Pour l'instant, il a été élu avec 55% des voix.
Oui, oui, d'accord, mais toujours est-il, c'est que...
Il y a les élections législatives à venir.
Il faut effectivement une majorité pour pouvoir appliquer. Bon, moi je pense que effectivement, c'est un peu comme l'élection de Trump. C'est surtout les réseaux sociaux, un nouveau monde.
D'ailleurs, on parle de lui comme le Trump d'Amérique du Sud, le Trump argentin.
Un Trump beaucoup plus vivace, puisqu'il c'est un ultra-libéral avec des propositions assez chimériques. Je vais supprimer la Banque centrale, je vais supprimer ça, je vais supprimer ça. Donc, les ministères...
On l'appelle el loco, le fou.
Bon, toujours est-il, on verra, parce que après une élection, il y a l'épreuve du terrain. La réelle politique.
Alors revenons un peu au réchauffement climatique. La future COP va se dérouler
à Dubaï.
À Dubaï, fin novembre. Hein, ça va être du 30 novembre au 12 décembre à Dubaï. Est-ce que ça avance, Abdelhamid Mektoul ? On a le sentiment que la Chine et les États-Unis freinent des deux fers.
Non.
Les deux puissances les plus polluées de la Terre, finalement, se foutent complètement de la COP.
Non, mais depuis la COP de Paris, effectivement, déjà, il y a un bémol avec l'élection de Joe Biden, parce que vous savez que Trump s'était retiré de la COP, hein. Donc déjà, n'oublions pas que, d'après les informations que j'ai, si on prend les États-Unis, l'Inde et la Chine, il est prévu sur les 25-30 ans à venir un investissement annuel de 5 000 milliards de dollars par an. Vous savez qu'en 2022, pour la première fois, les investissements dans les énergies renouvelables ont été supérieurs aux investissements dans les énergies fossiles. Bon, il faut être réaliste, c'est une question de rapport de force des lobbies pétroliers, mais toujours est-il, c'est que on constate une prise de conscience. Regardez la déclaration du PDG de Total Energy, disant qu'une grande fraction de ses recettes vont être dédiées aux énergies renouvelables. L'Europe se propose, à travers la Commission européenne, Horizon 2030, de subvenir sa consommation intérieure à 50% en énergie renouvelable. C'est que il y a une prise de conscience. Bon, maintenant, ça peut pas se faire d'une baguette magique. Je pense que la transition énergétique se fera d'une manière très progressive.
Alors, Hamel Mebtoul, vous êtes un observateur avisé. On a le nord, on a le sud. Grosso modo, on a les pays développés et on a ce qu'on appelle les pays émergents. Récemment, on a fermé la Hollande a fermé sa plus grande centrale d'Europe de gaz parce que elle est partie vers les énergies alternatives qui devraient se situer autour à la fois de l'hydrogène vert, des éoliennes à la fois transatlantiques, mais pas que, et aussi de l'exploitation du plancton. Donc, on est déjà à ce niveau-là. Les pays développés sont en train de dire bye-bye aux énergies fossiles, alors que les pays du Sud, les pays dits émergents, sont en plein dedans, et il y a quand même un fossé qui va se creuser. On va avoir évidemment les pays développés qui vont caracoler en tête dans la transition énergétique, et puis la transition dans les pays du Sud, ça sera presque une insulte. Ils vont pas y être.
Non,
comment vous voyez ça, vous?
Vous savez, le climat, il est interconnecté, hein. Il faut se mettre dans la tête que lorsqu'il y a un phénomène X, par exemple en France, ça peut se répercuter aux États-Unis, en Chine, etc. C'est l'interconnexion, hein. Donc là, moi je pense qu'il y a une prise de conscience, notamment de bon nombre de pays d'Afrique, hein. Mais là, il faut une coopération internationale. C'est-à-dire, pourquoi d'une manière progressive, c'est que les pays en voie de développement disent que il faut une coopération internationale. Pour les deux pays les plus grands pollueurs, comme vous l'avez très très bien mis en relief, la Chine et les États-Unis, n'oublions pas que le pays qui risque de dominer en voiture électrique horizon 2025-2030 le monde, c'est la Chine. C'est la Chine. La Chine est en train d'investir énormément dans les énergies renouvelables. Regardez ce qui s'est passé il y a un mois à Pékin. Ils étaient obligés de fermer du fait de la pollution à Pékin. Je prends le cas de mon pays, l'Algérie. Bon, l'Algérie a une prise de conscience d'aller... D'abord, on a 3000 heures de soleil. Le plan du gouvernement prévoit 22 000 mégawatt-heure, dont 10 000 vers l'exportation. Il prévoit...
Oui, mais alors, même tout, les plans, ça fait des décennies qu'on en parle.
Non.
Mais on n'en voit jamais le bout.
Non. Actuellement, il y a des...
Le bout du nez, je veux dire, parce qu'ils ne sont jamais mis en...
Non. Actuellement, il y a quand même une prise de conscience et des réalisations. Il vient d'avoir un accord avec la Commission européenne, effectivement, pour développer le solaire. Il y a un accord aussi récemment avec l'Allemagne pour l'hydrogène vert, parce que l'Algérie veut investir concrètement entre 2023 et 2035 à peu près 35 à 40 milliards de dollars, et des interconnexions avec l'Europe pour subvenir à 10% en hydrogène vert.
Vous êtes extrêmement optimiste. Vous parlez d'un réchauffement d'ici un demi-siècle de jusqu'à 4 degrés, et vous dites que grâce aux efforts qu'on fera, on va maintenir le réchauffement à 1,5 degré. Vous êtes vraiment optimiste ?
Non, le grand problème... Écoutez, maintenant, le monde n'a pas d'autre choix. Si la Chine, l'Afrique et les pays en voie de développement avaient le même modèle de consommation que l'Europe et les États-Unis. Si on prend l'Europe et les États-Unis, c'est moins d'un milliard d'habitants. Or, ils contrôlent le PIB de 2022 et de 105 000 milliards de dollars. Hein, 105 000. Or, l'Europe et les États-Unis accaparent 40% du PIB mondial. Imaginez-vous que sur les 7 autres milliards, ils avaient le même modèle de consommation énergétique. Tous les spécialistes s'accordent à dire qu'il faut 4 fois la planète. C'est pas possible. Donc maintenant, la transition énergétique passe par une coopération internationale.
D'accord, mais concrètement, on vient d'avoir le sommet de la paix à Paris. Concrètement, les témoins de ce réchauffement climatique, c'est 1. La fonte des glaciers, 2. La barrière de corail qui est réduite de moitié, et 3. La disparition des abeilles. Donc par rapport à ça, vous lancez dans des grandes circonvolutions de relations, d'Europe, etc. Mais on n'empêche que la planète est en train de souffrir. Vous réagirez dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan.
Oui, toujours avec Abdelrahman Mebtoul, qui nous fait l'honneur et la gentillesse de passer dans nos studios, puisqu'il est à Paris pour quelques jours. Abdelrahman Mebtoul, je citais à l'instant la fonte des glaciers, la barrière de corail qui est menacée, qui est réduite de moitié, et la disparition des abeilles. Et vous, dans une très belle, un très beau document, contribution, vous signez la hausse du niveau des mers, la modification des océans qui absorbent le gaz carbonique, les phénomènes météorologiques extrêmes, vous en avez parlé avec les tempêtes, les tremblements de terre, etc., et donc qui entraînent quand même des dérèglements impressionnants, le réchauffement climatique qui menace aussi la biodiversité, les plantes et les animaux, et puis, bien sûr, c'est ce dérèglement qui perturbe les productions agricoles, c'est-à-dire ce qui fait vivre l'homme, l'alimentation, et par rapport à ça, vous dites qu'il faut un sursaut.
Ah oui, de toute manière, l'humanité est menacée. Hein. Il faut être réaliste. Maintenant, le risque que vous signalez, c'est que les pays qui maîtrisent effectivement la technologie puissent réaliser leur transition énergétique et laisser la majeure partie de l'humanité en rade. Ça serait effectivement une véritable catastrophe pour l'humanité. C'est que maintenant, tous les experts s'accordent à dire que sans une coopération internationale, un co-développement entre le Nord et le Sud, il n'y a pas de solution. Regardez, lorsque vous parlez de l'effondrement des glaciers, l'effondrement, vous savez ce qui il tient la Terre, c'est le sel. Contrairement aux gens qui j'ai discuté avec des spécialistes, le sel permet effectivement à l'eau de ne pas trop monter. Lorsqu'il y a un déversement de millions et de milliards de mètres cubes d'eau douce, c'est que il y a un remontement, une remontée effectivement des eaux au niveau des côtes, parce que à cette allure, la plupart des côtes d'ici 50 ans, 60 ans ne seront plus habitables. Donc, vous voyez, donc ça passe effectivement par une coopération internationale. Et effectivement, les pays développés disent, nous ne sommes pas... Regardez, l'Afrique n'est responsable, d'après un rapport de l'ONU, que 3,5% des effets de serre. Donc, maintenant, il appartient aux pays qui ont émis, effectivement, ces effets de serre de contribuer pour le reste de l'humanité à... parce que c'est leur propre survie. Sinon, on va assister à des flux migratoires très, très importants à l'intérieur des continents, mais en allant vers les zones de prospérité. Pas uniquement vers l'Europe, les gens voudront aller vers les États-Unis, ailleurs, etc. Donc, pour terminer, pour effectivement, ce chapitre des réchauffements climatiques, ça pose un problème de la sécurité mondiale. C'est un problème de sécurité mondiale.
Et des ressources en eau. Et des ressources en eau, parce qu'il y a de moins en moins d'eau potable.
Voilà. Donc,
effectivement. Il y a de moins en moins de pluie. On interdit les piscines, on interdit les arrosages, on interdit beaucoup de choses. Et donc, il y a de moins en moins d'eau potable. Donc, le réchauffement va aussi avec la raréfaction des nappes phréatiques.
Oui, oui, mais. C'est-à-dire qu'il faudrait que les êtres humains arrivent à avoir un autre modèle de consommation. Et des aliments qui sont moins consommateurs d'eau. Il faut qu'on change même notre modèle de consommation. Parce qu'il va y avoir une raréfaction de l'eau douce. Bon, maintenant, est-ce que les unités de dessalement d'eau de mer seront-elles une des solutions, parce que n'oublions pas que les deux tiers de la planète, c'est les océans et les eaux de en dehors. Donc la Terre risque maintenant, c'est un quart la Terre, trois quarts eau. Si on reste dans cette situation, ce ratio risque de diminuer. Et l'eau va être un problème de guerre. Je viens de faire une contribution internationale sur la guerre de l'eau au horizon 2030-2040, parce qu'il faut voir loin, parce que nous on sera peut-être pas là, mais il y aura une génération future, il y aura des guerres l'eau au Moyen-Orient entre l'Inde et la Chine qui se partagent des eaux. Donc, ça va être au Maghreb qui risque de connaître effectivement une sécheresse inégalée. Et sans eau, ça a un impact aussi sur la crise alimentaire. Bon, avec le réchauffement climatique, je vais vous donner... Ça veut dire que c'est la Russie qui risque de devenir un leader alimentaire. Pourquoi ? Puisque si à la fonte des glaces en Sibérie, ça devient... À court terme, disons pendant une période de 10-15 ans, une terre agricole. Donc, vous voyez un peu le...
Oui, la Russie est le plus grand pays du monde. Donc
voilà,
en superficie.
Et la fonte des glaciers en Sibérie pourrait lui donner un leadership agricole.
Alors, pour continuer dans le leadership, parlons de l'Algérie. Donc, vous êtes un observateur et un acteur important à ce niveau-là. Aujourd'hui, l'Algérie semble se situer au centre d'un échiquier mondial. On l'a vu sur la guerre en Ukraine, où, à cause des raréfactions des fournitures de gaz, et donc l'Algérie était courtisée par différents pays pour fournir du gaz. On le voit au niveau du Sahel, où l'Algérie est rentrée dans des négociations avec le Niger, avec des plans, qu'on appelle les plans d'Alger, pour essayer de trouver des solutions à ce qui se passe au Sahel. On le voit aujourd'hui aussi avec la Palestine, avec la guerre israélo-palestinienne. Hein, et moi, ce qui m'énerve, c'est que tout le monde présente ça comme une guerre entre Israël et le Hamas. C'est une guerre entre Israël et le peuple palestinien. Et on voit que l'Algérie aussi est très présente. Elle est pionnière et elle est avant-gardiste de ce point de vue-là. Et on va chercher aussi un peu son conseil, puisque c'est quand même la révolution algérienne qui est un modèle dans le monde entier. On voit aussi que l'Algérie, elle, tourne autour du BRICS parce qu'elle veut aussi rentrer dans un monde multipolaire. Parlez-nous un peu de cette position de l'Algérie qui de plus en plus devient importante. L'Algérie qui aujourd'hui est un mini-continent dont on ne peut pas... qui est devenu incontournable. Parlez-nous un peu de tout ça.
Bon, l'Algérie, effectivement, c'est reconnu, que ce soit par la Russie, la Chine, les États-Unis, la Commission européenne, comme un acteur stratégique de la stabilité de la région euro-méditerranéenne et africaine. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Bon, mais pour qu'elle puisse consolider sa position, et vous savez que actuellement dans les relations internationales, le poids de l'économie est très très important. Donc, on le voit à travers la Chine. La Chine est devenue une très grande puissance écoutée dans les relations internationales grâce à sa puissance économique. Hein. Donc, l'Algérie a toutes les potentialités, effectivement. Bon, actuellement, disons. Il faut le reconnaître, avec les dérivés, 98% des recettes proviennent des hydrocarbures. Bon, il y a une volonté, même une mise en place progressive des réformes. Les indicateurs économiques, macro-financiers du moins, sont relativement bons. Au 31-12-2023, les réserves de change seront, avec les réserves d'or, hein, les 173 tonnes d'or, de 83 milliards de dollars. Bon, l'inflation n'est pas tellement maîtrisée actuellement, puisqu'elle varie entre 9 et 10%. Le taux de chômage, d'après le Fonds monétaire international, est environ de 14%. Mais actuellement, il y a une mise en œuvre des réformes pour consolider sa position économique. Hein. Toujours est-il, c'est que elle entretient de bonnes relations. On l'a vu à la réunion d'Alger, que ce soit avec les différentes organisations palestiniennes, Hamas, le Fatah, d'autres organisations. Elle peut servir de relais, puisqu'elle entretient effectivement des relations avec les différentes fractions palestiniennes, en espérant pour nos frères palestiniens une réunification, hein, de toutes ces tendances autour d'un leader unique.
Alors, ce leader unique, il existe. Le Nelson Mandela palestinien existe, Abdelrahman Mebtoul. Il est dans les geôles d'Israël. Il s'appelle Marwan Barghouti. Si, aujourd'hui, si Marwan Barghouti sort, si les États-Unis, l'Occident fait pression sur Israël pour le faire sortir, Barghouti pourrait unifier toute la classe politique palestinienne, c'est pas votre avis ?
Non, moi je c'est pas mon domaine hein, effectivement, moi je, chacun se limite à son
on
domaine.
On parle de lui comme le seul mandat palestinien.
Bon, j'ai vu ça dans la presse effectivement, il aurait même l'aval d'Israël. Donc effectivement, nous on espère hein, une paix durable au Moyen-Orient qui passe par un État palestinien fiable. Effectivement, qui passe par une décolonisation en Cisjordanie. C'est intolérable. Maintenant, tous les observateurs, même nos amis juifs, disent que c'est une erreur monumentale d'avoir permis la colonisation en Cisjordanie. Bon, la proposition...
On parle de 500 000 colons.
Voilà, il y a 500 000 colons. Donc, toujours est-il, c'est que la proposition récente du président US disant que la Palestine devrait faire la jonction entre la Cisjordanie et Gaza pour avoir un État. C'est même ça, ça, c'est même bon pour la sécurité d'Israël. C'est-à-dire que ces peuples sont appelés à vivre ensemble. On ne peut pas dégommer 10 ans, on va enlever Israël. C'est de l'utopie, comme on ne peut pas radier le peuple palestinien. C'est pas possible. Donc, il est dans l'intérêt, peut-être c'est utopique actuellement avec les événements, c'est dramatique, il y a des morts de part et d'autre, mais l'action de revanche, entre guillemets, de Netanyahou est intolérable lorsqu'on voit les femmes, les enfants, les massacres qui se font à Gaza, ça devient intolérable.
Et comment expliquez-vous qu'ils n'arrivent pas à mettre en place un cessez-le-feu ?
Non, c'est que... Bon, maintenant, ça nous dépasse le gros problème qui se pose. Il faut entrevoir à terme la solution politique. Parce que bon.
Mais en attendant, il faut stopper.
Actuellement,
il faut un embargo militaire et stopper les armes.
Non,
c'est des morts et des morts en permanence.
Non, actuellement,
des morts palestiniens.
Il faut arrêter ce massacre. C'est clair, net et précis. C'est la vie même. Regardez. Aux États-Unis, jamais on avait vu une grande diaspora juive.
Les communautés juives des États-Unis.
Aux États-Unis, à Harvard, un peu partout, ouais. Commençaient à s'immiscer. Donc, espérons une paix durable pour la stabilité du Moyen-Orient.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h. Les grands témoins avec Nasser Khétan.
Toujours avec Abd al-Rahman Mebtoul, dont notre grand témoin. On parlait du réchauffement climatique à l'instant. Dans les relations franco-algériennes, on peut parler du refroidissement. Ça semble un peu glaciaire en ce moment. Emmanuel Macron a réussi la performance de se mettre à dos à la fois le Maroc et l'Algérie. C'est votre opinion ?
Non, c'est pas mon opinion. Moi, je pense qu'on le voit à travers la balance commerciale, hein. Des 9 premiers mois de 2023. Il y a un accroissement des échanges entre l'Algérie et la France. Il y a les discours politiques et la réelle économie. Hein.
La France est quand même devenue le quatrième partenaire.
Oui, mais...
Derrière la Chine, derrière l'Italie, et derrière la Turquie.
Non, ça dépend, parce que si vous enlevez les exportations d'hydrocarbures, votre classement change automatiquement. C'est tout à fait normal, avec le prix des hydrocarbures en valeur. Bon, nous, on approvisionne énormément l'Italie à travers le Transmed. Bon, maintenant, on est devenu, depuis septembre, le premier fournisseur de l'Espagne. Et entre parenthèses, il y a eu récemment le rétablissement des relations algéro-espagnoles où l'Algérie a accrédité effectivement l'ambassadeur en Espagne. Donc, mais si on enlève effectivement les hydrocarbures et on laisse les autres biens, la France est quand même en bonne position. Bon, c'est vrai que actuellement, en termes d'importation, la Chine est devenue le premier partenaire. Mais en termes d'investissement, ce n'est pas la Chine, c'est les États-Unis. Les États-Unis sont le premier, si on prend les hydrocarbures, hein, le premier investisseur en Algérie. Les Chinois, pour l'instant, se cantonnent en commerçant. En commerçant, bon, après le dernier voyage du président de la République On nous a promis un investissement de 36 milliards de dollars, mais il faut attendre. Il faut attendre. Pour l'instant, les Chinois peut-être investissent beaucoup plus en Éthiopie ou au Maroc qu'en Algérie. Bon, effectivement, les relations entre l'Algérie et la France sont loin des attentes. Bon, il n'y a pas tellement... Bon, c'est comme un vieux couple. Hein.
Oui, mais on, ça va et ça vient. Il y a des coups de canif qui sont donnés récemment, notamment à la langue française, alors que l'Algérie est un pays francophone. C'est un des plus grands pays francophones. L'État algérien est en train de réduire la part du français en Algérie, non ?
Regardez ce qui s'est passé au Maroc. Le Maroc a réduit totalement la langue française. Donc c'est... Non, ça veut dire que le français n'est pas supprimé en Algérie. Il devient une langue étrangère. C'est tout à fait normal. La langue nationale de l'Algérie, c'est la langue arabe.
Il y a le tamazir, ça aussi.
Il y a tamazir.
Il y a deux langues nationales et deux langues officielles.
Oui, oui.
L'arabe et tamazir. Ça, on oublie souvent de citer tamazir.
C'est-à-dire que l'Algérie repose sur trois volets, l'islam, la mazérité et l'arabité. Donc, actuellement, il y a une généralisation de l'enseignement en tamazir. En tamazirte, à travers pas mal d'écoles, etc. Et il faut s'en féliciter.
D'ailleurs, dans beaucoup de documents officiels, oui. Il y a toujours le tamazirte qui est avec, à côté de l'arabe.
Oui, toujours. Et il est en deuxième position. Donc il faut s'en féliciter. Hein. Bon, c'est la pluralité. Donc nous sommes avant tout
c'est
un
surtout,
peuple.
C'est surtout renouer avec l'identité, l'identité du
nous
pays.
Nous sommes un peuple amazirte, à majorité amazirte, qui a été islamisé et arabisé. Donc c'est ça l'Algérie, hein, il faut le reconnaître. Donc, contrairement aux mauvaises langues, le français n'a pas été supprimé. Il est enseigné du primaire au secondaire. Mais maintenant, pour les cours... Bon, il faudra attendre... Belex, il y a eu une précipitation. J'ai discuté avec nos amis professeurs de médecine. Ça va être extrêmement difficile, effectivement, de passer d'une manière rapide à l'anglais. L'anglais, c'est une langue internationale. Moi, je navigue à travers le monde. Les plus grandes universités françaises, l'enseignement est en anglais. En France, hein. Ce n'est même pas... C'est tout à fait normal, c'est la langue internationale. Donc, ce n'est pas supprimé, ça devient une langue étrangère, mais elle est enseignée au primaire, secondaire, et on espère que nos enfants puissent maîtriser effectivement les trois langues, c'est-à-dire les quatre langues, l'arabe, la mazirte, le français et l'anglais.
Alors, on a l'impression quand même que Emmanuel Macron, qui est un jeune président... une quarantaine d'années, qui n'a pas connu la guerre d'Algérie, qui a ouvert beaucoup de choses, qui a commencé à ouvrir les archives, qui a reconnu l'assassinat de Maurice Audin comme un crime d'État, de Boumendjel. On a l'impression que tout ça ne recueille pas un petit peu les efforts de ces ouvertures et qu'à chaque fois en Algérie, on lui oppose une fin de non-recevoir.
Non. Moi, je répète ce qu'a dit le président Tebboune. Laissons aux historiens l'écriture de la mémoire. L'Algérie tient énormément...
D'ailleurs, la commission va se réunir bientôt à Constantine.
Voilà, non. Benjamin Stora est un monsieur qui est beaucoup respecté en Algérie. C'est un monsieur très respectable.
C'est déjà un Algérien.
Oui, il est de Constantine. Donc, ce qu'il fait, c'est un peu comme Jacques Attali, qui est né à Babelouette. Donc, ce qu'il fait, pour le président de la République, il ne s'agit pas d'ajouter de l'huile sur le feu. Et il s'agit de laisser aux historiens l'écriture de la mémoire. Regardez ce qui vient de se passer. Le roi de Belgique a reconnu effectivement les crimes commis par la Belgique dans certains pays d'Afrique. Bon, le problème essentiel, c'est, outre le devoir de mémoire qui est important dans l'intérêt à la fois de la France et de l'Algérie, de préparer l'avenir ensemble. C'est-à-dire qu'on a une communauté émigrée très très importante, une diaspora très intelligente qui est là, qui peut servir de pont. Et effectivement, là, il est dans l'intérêt à la fois de l'Algérie et de la France de repartir sur de nouvelles bases, loin des passions. Moi, je pense que le gouvernement algérien n'a aucune animosité vis-à-vis de la France. Bon, les Français défendent leurs intérêts, les Algériens défendent leurs intérêts.
Alors, qu'est-ce qui pourrait faire qu'il y aurait un nouveau départ dans les relations franco-algériennes ? Est-ce que la Méditerranée n'est pas peut-être un endroit où l'Algérie et la France pourraient s'unir pour construire quelque chose ? Parce que la Méditerranée souffre, c'est les 10 villes les plus chaudes du monde, ce sont des réfugiés qui meurent en mer, ce sont des appétits prédateurs qu'on a cités en début d'émission. Est-ce que la Méditerranée pourrait pas être une espèce d'endroit où l'Algérie, qui est un pays majeur en Méditerranée, et la France, pourrait construire quelque chose ? Oui. Vous qui êtes un Méditerranéen dans l'âme, non, oui, et qui avez mené la délégation algérienne en Méditerranée.
Non, il ne faut pas se limiter à la France. On a fait le voyage ensemble, Nasser. Donc, il faut introduire l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la France, tous les pays du sud de la Méditerranée. Il ne faut pas se limiter qu'aux relations. C'est-à-dire que moi, je vois la Méditerranée dans un ensemble, Malte, etc. Donc, la Méditerranée est une longue histoire de cohabitation pacifique, une longue histoire de culture commune, et elle pourrait effectivement servir de pont entre, et l'Algérie est bien placée, vers l'Afrique, parce que les enjeux du 21e siècle, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. L'Afrique va entre 2035-2040, c'est un quart de la population mondiale. On le voit récemment à travers les rivalités entre la Chine, les États-Unis, des pays émergents. Un pays qui pénètre actuellement l'Afrique, c'est la Turquie. Contrairement à ce que les gens pensent, leur investissement en 2022 a été plus, cumulé près de 45 milliards de dollars. Bon, regardez tous les sommets qui ont été tenus sur l'Afrique. Japon-Afrique, Turquie-Afrique, Russie-Afrique, donc Chine-Afrique. Donc, il y a un élément très très important. Et les pays du monde Orient en sont conscients, puisque les pays du Golfe sont en train d'investir aussi massivement en Afrique. Donc la Méditerranée a tous les atouts pour effectivement, en espérant que dans le cadre de la résolution des Nations Unies, le problème du Sahara occidental soit résolu. Moi, je suis un partisan fervent du Maghreb. Bon, j'ai effectivement, avec un auteur que je ne citerai pas pour mal, avec le docteur Camille Sahari, on a édité effectivement un livre, Le Maghreb face aux enjeux géostratégiques, qui est paru aux éditions Harmattan, qui a réuni 36 experts des deux rives de la Méditerranée. Donc, espérons, parce qu'il est suicidaire pour chaque pays du Maghreb, de faire cavalier seul. Moi, je vois un ensemble du Maghreb de 100 millions d'habitants. Bon, lorsqu'on a navigué ensemble, le Maroc, la Libye, la Mauritanie, la Tunisie étaient présents, hein, en même titre que l'Algérie. Les pays maghrébins ont une histoire commune et peuvent être des acteurs effectivement majeurs au niveau de la Méditerranée pour servir de pont entre la Méditerranée et l'Afrique.
Abdelrahman Mebtoul, merci mille fois d'avoir accepté notre invitation. On retiendra en tout cas de cette émission que vous êtes extrêmement optimiste par rapport au réchauffement climatique, que l'homme va trouver les solutions pour combattre ce fléau qui menace l'extinction de la biodiversité. La deuxième chose, cet optimisme en direction de la Méditerranée, avec une Méditerranée des solutions, avec un partenariat de l'ensemble des pays, avec une gouvernance quand même qui soit à égalité. Et enfin, votre optimisme pour la paix, et notamment dans ce qui déchire la planète depuis 70 ans, à savoir le conflit israélo-palestinien, où vous appelez de vos voeux une solution, bien sûr, à deux États, avec un État palestinien digne de ce nom, et qu'enfin on puisse avancer dans cette région du monde et qui est à l'origine des religions monothéistes et beaucoup d'autres choses. Donc on retiendra ces trois optimismes, et merci beaucoup d'être venu, et à très bientôt.
Je vous remercie, Nasser, de votre aimable invitation.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.